Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous voici avec notre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, une émission qui encourage les victimes à dénoncer publiquement les auteurs de l'abus de pouvoir, une émission qui accorde favorablement la parole à celles et ceux qui ne sont pas entendus ou très peu considérés dans une société qui s'intéresse de plus en plus aux plus forts, aux plus puissants, à ceux qui dérobe le pouvoir à leur fin personnelle. Donc une émission qui reprend le cri d'alarme du citoyen pour l'intensifier en signe de contestation publique. Vous le savez, chères auditrices, chers auditeurs, que le citoyen est devenu de plus en plus vulnérable, négligé, non considéré et encore moins respecté. Alors à travers cette voie, y aura-t-il un espoir au fond du tunnel? Bien sûr, nous sommes comblés de fierté d'être justement une face du public, une image, un visage de ceux qui accordent le pouvoir et qui peuvent le reprendre à tout moment, le peuple, le citoyen, l'homme avec une grande majuscule, ceux qui ont la voix étouffée à force de manifester leur insatisfaction, leur désaccord, leur indignation, même sans succès et en colère à répétition. Cette société donc qui est représentée à l'extérieur comme modèle par définition, une école à suivre pour la démocratie, la justice, l'égalité et la paix n'est finalement qu'une société de mensonges débordée par l'injustice, la corruption, le favoritisme, l'inégalité, l'abus de pouvoir et le non-respect. Donc nous vivons et malheureusement dans un système pourri jusqu'à l'os, rien n'est prometteur que le mensonge d'une politique enfermée dans un cercle vicieux, malsain, encombré par des promesses dans l'air et le public s'accroche forcément, naïvement, au mince espoir du changement qui, à mon avis, est difficile à atteindre. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant en première ligne, assure la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Mais en réalité, nous-mêmes, nous sommes piégés par le système qui fait de nous des militants de décoration pour une politique qui prend la démocratie comme symbole et véhicule en réalité tout le contraire. Alors voilà, je vous laisse nos coordonnées. Vous pouvez en tout temps participer à cette émission, partager vos réactions et vos soucis de société. N'oublie pas que dénoncer les abus de pouvoir et les injustices est un devoir de citoyen. Et si vous êtes témoin ou victime, nous vous invitons à partager l'expérience avec le public à travers notre voix. Pour nous rejoindre, chères auditrices, chers auditeurs, appelez-nous au 514-273-4302 ou bien vous pouvez toujours nous écrire info@commercialmage-québec.com. Je répète donc le 514-273-4302. Ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Nos bureaux sont ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 15h. Mon collègue, donc Roland Cazès, est comme d'habitude, il va participer au débat. Nous avons aussi Edgar Robin, un militant du MAGE, qui va nous apporter quelques précisions sur le suivi de la mort de M. Arshad Mohammadi, cet itinérant abattu le 6 janvier dans la station du métro Bonaventure. Nous avons invité également Mme Joanne Galipeau du collectif Action Autonomie. Elle est venue nous parler de la réaction de ce collectif vis-à-vis à cette bavure policière qui a coûté la vie à cet homme. Sentimentalement brisé, dépressif, découragé, bouleversé par la réalité de cette société qui reflète vraisemblablement la loi de la jungle, où le plus fort a le dernier mot. Sans oublier, bien sûr, Mme Rosemonde Legault, notre technicien de son, je ne sais pas si elle pourra aujourd'hui dire quelque chose. Et finalement, il y a Clara, cette future juriste, on lui laisse toujours le choix si elle veut intervenir à tout moment. Nous allons passer à notre thème musical, chères auditrices, chers auditeurs, et nous revenons avec notre actualité d'aujourd'hui, avant de discuter avec nos invités.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel. Vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, donc rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Même si l'actualité cette semaine est définitivement scandaleuse, suite au suicide confirmé ou non de Ian Davidson, ce sergent détective retraité du service de la police de Montréal, le SPVM, un suicide difficile semble-t-il à confirmer parce que la thèse du meurtre, ou plutôt poussée, une personne à suicider n'est totalement pas exclue. Donc, trancher la gorge soi-même, ce n'est pas toujours crédible pour privilégier la thèse du suicide, alors qu'il y a bien sûr d'autres méthodes moins violentes pour un tel geste. Suicider est une chose et être assassiné est une autre. Maintenant, si c'est le cas, par qui? Et c'est justement la question qui nous laisse perplexe et à laquelle, malheureusement, personne ne pourra éventuellement répondre. Donc la mort de Ian Davidson a fauché avec elle tout un embarras de haut niveau, particulièrement pour le SPVM, un dossier qui se ferme très rapidement pour ouvrir un autre un peu loin à l'écart de notre vigilance. Pour nous, la fin tragique d'abord de ce sergent détective de la police de Montréal qui aurait tenter de vendre à la mafia italienne et possiblement à des Turcs pour quelques millions de dollars la liste des informations de la SPVM, plutôt je dirais une base de données qui contient le nom et les informations de plusieurs criminels qui renseignent la police à l'insu de leurs collègues. Vous savez, c'est des sources hautement confidentielles chargées d'infiltrer le crime organisé. Attention, ce n'est pas quelque chose de léger, c'est très sérieux et personne n'est à l'abri dans cette confusion totale. Une chose est certaine, donc il y a présentement des centaines de Ian Davidson dans le corps de la SPVM, de la SQ et celui de la gendarmerie royale. Ian Davidson est tombé dans le filet par un pur hasard et les autres Davidson qui vont les découvrir. Je lisais cette semaine aussi qu'un autre policier de la Sûreté du Québec avait plaidé coupable en vertu d'un acte criminel de vol, de contravention et de complot. Après avoir été intercepté par ou pour accès de vitesse sur l'autoroute 40, un lieutenant de la mafia fait appel à son quartier général ici à Montréal et demande l'annulation de la contravention qui venait de la recevoir. Donc le lendemain, la contravention en question n'était plus là. Et c'est aussi rapide que vous ne pouvez pas l'imaginer, un simple appel et l'administration de la SPVM soit paralysé définitivement. Visiblement, tout est sous contrôle. La mafia est filtrée partout et à tous les niveaux. Cette fois aussi, c'était par un pur hasard que des enquêteurs de l'opération Colisée ont intercepté la conversation téléphonique incriminant le policier en question. Tout est par pur hasard. Et combien de fois le hasard devra intervenir pour que les choses fonctionnent un peu mieux. Je veux simplement dire que dans les rangs de ceux qui manipulent le pouvoir, il y a toutes sortes de criminalités. Drogue, prostitution, falsification de documents, faux témoignages, blanchissement d'argent, vol, complot, disparition de preuves, et j'en passe allant jusqu'à l'assassinat. Alors que la loi de l'impunité clignote en retrait de force, l'expansion de l'abus de pouvoir, de l'injustice grandissent dans un système où la politique de base souvent est remise en question. En confirmation, malheureusement, nous n'observons aucune volonté sincère de la part de nos politiciens, sinon des promesses et un suivi décousu, si ce n'est pas des écrans de fumée très mal adaptés à des situations d'urgence. Écoutez, l'actualité de cette semaine est aussi scandaleuse et comique en même temps, puisqu'elle nous ramène à un sujet vieux comme la terre. Un autre sujet, celui de profilage racial. Il fallait qu'un policier noir, victime de profilage racial par ses propres pairs, dénonce la situation pour que la tempête démarre de nouveau. C'est du vrai comique, hein. D'ailleurs, les tribunaux au Québec n'ont jamais retenu de plainte pour profilage racial contre des policiers. La ville de Montréal refuse catégoriquement de parler de profilage depuis longtemps, chaque fois qu'il s'agit d'un policier. Donc il ne faut jamais oublier que, de le souligner bien sûr, ce n'est heureusement pas le cas de tous les policiers, mais il y aura une partie inquiétante qui est désignée. Le comique dans tout ça, c'est de savoir qu'il y a des centaines et des centaines de plaintes contre des policiers en matière de profilage racial, et cela depuis très longtemps. Mais il fallait attendre qu'un policier noir devienne victime pour que les choses se prennent au sérieux. Donc à propos du directeur de la SPVM, M. Marc Parrain, ce personnage un peu discret, même s'il a l'air d'être un homme de bon foi. D'ailleurs, le mouvement Action Justice planifie à le rencontrer dans le cadre de son plan de travail et nous allons voir sa réaction. Dernière information avant de céder la parole à nos invités, Madame Joanne Galipeau et mes collègues Maj, vous informe que nous avons réclamé au coroner une autopsie indépendante dans le dossier de M. Arshad. C'est Arshad, hein? Pardon, c'est M. Farshad Mohammadi, cet itinérant de 34 ans abattu par un agent de la SPVM le 6 janvier dans la station du métro Bonaventure. Et nous avons également demandé la permission pour avoir accès au corps de M. Farshad. À la déontologie policière aussi, nous avons déposé une plainte contre les deux policiers impliqués dans cette mort. Et puisqu'on sait d'avance qu'il n'y aura certainement pas d'accusation portée contre ces deux policiers, comme la coutume le dicte, Nous avons réservé aussi également le droit de réclamer une enquête publique. Voilà donc un petit sommaire de tout. Nous allons passer à une pause musicale et nous revenons avec la réaction de la porte-parole du collectif pour la défense des droits et santé mentale, Madame Joanne Galipo.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes jugements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. On revient avec nos invités d'aujourd'hui. J'aimerais bien commencer directement par Madame Joanne Galipo. Bonjour, Madame Joanne Galipo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais directement vous poser la question. Vous êtes de l'organisme Action Autonomie.
Oui.
Oui. Est-ce que je peux savoir quel est le mandat de votre organisme, justement?
Le nom au complet de notre organisme, qui est très long, c'est oui. Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale pour la région de Montréal.
Okay.
Comme le nom l'indique un peu, nous faisons la défense et la promotion de droits individuels, c'est-à-dire qu'on a un volet chez nous pour aider les gens là, sur une base individuelle, les gens qui ont des problèmes, un volet d'aide et d'accompagnement, et un volet de défense de droits collectifs, ben un peu comme aujourd'hui, on a plusieurs dossiers importants, tout ce qui touche la santé mentale de près et de loin, on a des dossiers, on est vigilant, on a des dossiers prioritaires sur lesquels on travaille beaucoup, le cadre d'un établissement, et bon, l'itinérance, les problèmes de santé mentale, avec mais avec les problèmes de la police, le tout bien mêlé ensemble devient un dossier de plus en plus important.
Et vous existez depuis combien de temps, madame?
Comme Action Autonomie, 20 ans.
Depuis 20 ans?
Oui, antérieurement, c'était...
Ça tombe bien, parce que ça résonne bien, parce qu'il y a 20 000 itinérants à Montréal, et vous existez depuis 20 ans, je pense que c'est une bonne réponse. Je peux savoir maintenant, est-ce que la question que... Il y a des gens qui m'ont posé la même question aussi, est-ce que vous pensez-vous que l'itinérance, les gens qui sont sans abri, ils peuvent basculer dans la folie ou plutôt dans la, tu sais, dans des malades mentaux, voilà, des problèmes mentaux, quoi. Est-ce que c'était un motif?
C'est la misère.
C'est la misère. Hein? C'est la pauvreté, la misère.
La misère, mais la misère humaine à tous les niveaux. L'isolement, le rejet qui peut amener, c'est d'ailleurs démontré là, par plusieurs experts, là, que les inégalités sociales créent la maladie, pas seulement physique, celle psychologique. Fondamentalement, c'est la misère qui va amener qu'une personne, c'est pas tous les itinérants qui ont des problèmes de santé mentale, loin de là. Il y en a que c'est par choix, il y en a parce qu'ils n'ont plus de ressources, sont rendus là, dans leur vie, malheureusement. Donc, c'est ça, c'est pas tous les itinérants qui ont des problèmes de santé mentale, il faut faire attention dans les généralisations.
Oui. Mais est-ce que c'est alarmant ici à Montréal? Est-ce que je poserais par exemple une question pour le 2011, avez-vous un nombre, combien vous avez par exemple intervenu donc?
Intervenu personnellement, auparavant on avait plus souvent de demandes d'aide et d'accompagnement de la part des itinérants parce qu'on était vraiment dans le centre-ville. Oui, oui. Maintenant on est un petit peu en dehors du centre-ville. Donc au niveau de cas individuels, c'est, il y en a quelques-uns, mais c'est marginal. Là. C'est pas les principales demandes qu'on reçoit chez nous. On va intervenir beaucoup plus au niveau public, politique.
Voilà, c'est la question que j'aimerais bien poser. Maintenant, au niveau politique, qu'est-ce que vous avez fait? Puisqu'il y a... Le problème est toujours là. Hein. On sent qu'il n'y a pas de changement depuis des années. Et qu'est-ce que vous avez proposé au gouvernement? Est-ce que vous étiez à l'écoute ou non?
Le gouvernement l'écoute. Ils ont les deux mains sur le volant. On ne sait pas ce qu'ils entendent ou pas. Écoutez, tout le monde...
Mais vraiment, le travail de collectif qui m'intéresse, moi.
Surtout depuis la mort de M. Farchad, il y a eu énormément d'interventions.
Mais ce n'est pas le premier, excusez-moi. Ce n'est pas le premier.
Pas le premier.
Et ce ne sera pas le dernier non plus. Là.
Malheureusement. On le craint. Depuis sa mort, il y a eu énormément d'interventions dans les médias. Et enfin, je vous dire, on disait, il manque de services en amont, il manque de services de proximité dans la rue, aider ces gens-là où ils sont, c'est-à-dire dans la rue, et non pas les amener automatiquement à l'hôpital. Nous, on va aller plus loin, on va dire qu'il manque aussi de ressources alternatives. Le médicament, c'est pas la seule réponse à ça. Mais surtout, parce qu'on s'occupe beaucoup de la santé mentale des personnes itinérantes, de la santé mentale des gens en général, mais on questionne jamais le travail de la police. Et là, nous, on a une préoccupation sérieuse de la façon d'aborder ces gens-là.
L'approche, vous parlez, oui.
L'approche, le profilage social, on le sait, ça existe, la Commission des droits de la personne l'a reconnu. Oui. C'est pas nous qui le dites. L'approche, le préjugé favorable, on appelle ça comme ça chez nous, c'est-à-dire que c'est pas parce que t'as l'air bizarre, c'est pas parce que t'as un comportement bizarre qu'on doit t'interpeller différemment de n'importe quel autre citoyen ou citoyenne dans la ville, c'est-à-dire avec respect, avec un minimum d'écoute. C'est certain que si on brusque ou brutalise une personne qui est en crise, entre guillemets, qui est dans une situation de vulnérabilité psychologique, ça donnera pas des bons résultats. Et ça, le travail des policiers, on l'interroge très peu. On dit, ils ont une formation 7 heures dans tous leurs cours. Ça, c'est la formation qu'ils ont en santé mentale.
7 heures de
toute leur formation comme policier. Oui. 7 heures et quart, je pense, si je veux être précise. Donc, il y a un manque à ce niveau-là. Et puis, c'est ça, il y a vraiment un manque.
J'aimerais bien aussi vous poser la question suivante. Quelle est votre réaction à propos de la mort de cet individu-là? Pensez-vous pensez-vous qui mérite vraiment cette mort-là? Ou pensez-vous plutôt, est-ce que c'était évitable cette mort-là?
Je suis convaincue qu'elle était évitable, comme voilà. celle de M. Hamel avant et comme toutes les autres avant.
Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait une possibilité que cette mort-là ne sera pas.
Tout à fait par hasard. Il y a à peu près 2 semaines en France, il y a un policier qui a eu à intervenir avec une personne qui était agitée. Oui. On tirait des jambes. Je dis, ben, gardons aux autres.
Oui.
Hein? Ou plutôt que d'apprendre à tuer, c'est-à-dire à viser oui. la poitrine, ils visent dans les jambes. La personne n'est pas morte. Elle est blessée sérieusement, mais elle n'est pas morte. À la limite, si vraiment, mais, et je vais parler de gradation dans les moyens, parce que, la première chose qu'on fait, on dit, oui, arrête, sinon je tire, puis on tire. Il y a d'autres façons pour maîtriser quelqu'un. Si vraiment la personne est agitée, ça se peut, là, on dit pas qu'il devrait jamais intervenir, mais.
Mais Monsieur Galipo, Madame Galipo, excusez-moi. Je suis très loin. Madame Galipo, j'aimerais juste vous, comme vous le savez très bien, qu'il s'agit pas d'une seule balle, hein. De 3 balles. Donc, c'est vraiment une mort violente. Hein. C'est-à-dire, on peut paralyser quelqu'un par une balle, mais aller au 3e coup de feu, c'est un petit peu. C'est plus qu'exagéré. Hein,
la police a perdu le contrôle, ou en tout cas, ça donne cette impression-là.
Oui.
Que le policier a perdu le contrôle. Et si vous permettez un dernier point.
J'aimerais bien, oui.
Vas-y. Oui. Ce qui nous inquiète aussi beaucoup, énormément, on est signataire. La position de la Ligue des droits et libertins, ça n'a pas de bon sens que ce soit encore la police qui enquête sur la police.
Oui. Vous retournez au projet de loi 46 qui est déposé.
C'est
un écran de fumée, ça, vous le voyez comment.
Un écran de fumée, vous avez bien dit.
C'est-à-dire, nous sommes en train de revenir sur la... Le problème, chaque fois qu'il y a un mort d'homme, il y a toujours une réaction dans les médias et tout. Comment vous avez vu cette réaction? Pensez-vous que les médias étaient justes dans l'intervention? C'est-à-dire, les médias, on a vu que la couverture médiatique qui a été vraiment superficiel et puis à un moment donné on ne le voit plus. Hein.
Voyez-vous, non, pour une fois, moi j'ai trouvé que la couverture était bonne dans le sens qu'on disait pas, oh mon Dieu, c'est un problème, une personne qui avait un problème de santé mentale, il savait plus ce qu'il faisait, il était perdu, comme Mario Hamel, on a fait beaucoup le procès de Mario Hamel sur la place publique, pour une fois on n'a pas fait ça.
Mais pour les médias, vous avez vu qu'ils n'ont pas parlé de la scène du crime, hein. Ils n'ont pas parlé de ça du tout.
On était dans l'ignorance totale.
Total, oui. Voilà,
qu'est-ce qui s'est passé?
Personne ne peut savoir rien. Pourquoi la première balle? Pourquoi la deuxième? Pourquoi l'exigeant la troisième balle? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi l'interpeller? Tout ça, il n'y a aucune question.
Il n'y a rien, absolument
rien. C'est ça qui dérange. Écoutez, là, on va faire une pause musicale et on va revenir suite à la suite de notre entrevue avec Mme Galipo. Merci.
De ma vie sans lisse, je m'y accroche mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me
aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836 ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Lorsque vous insérez une plaque porte-clés des amputés de garde dans votre trousseau de clés, vous bénéficiez d'une mesure de sécurité et vous appuyez le programme pour enfants amputés. Si vous perdez vos clés, c'est votre plaque porte-clés qui permettra à l'association de vous les retourner par messagerie. Un service simple, rapide et gratuit. Grâce à votre soutien, les enfants amputés reçoivent les membres artificiels dont ils ont besoin pour mener une vie active. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Reggae Dom, I bring back the people freedom. l'émission Reggae Dome, tous les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et créolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer.
Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Encore bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Reprenons avec Madame Joanne Galipeau, porte-parole du. Est-ce que je sais bien porte-parole,
oui,
du collectif Action Autonomie. J'aimerais bien revenir un petit peu sur l'itinérance aussi. Les personnes qui sont justement atteintes d'une maladie mentale comme ça, quand ils se présentent chez vous, quel est le premier comment vous pouvez les encadrer, comment vous pouvez les accompagner, quelle est vraiment la mission première que vous donnez?
C'est ça. J'insiste sur le fait qu'on est un organisme de défense de droits.
Ouais,
donc, on n'est pas un centre d'entraide où,
voilà,
où les gens peuvent venir puis partager leur expérience, leur vécu. Ouais. Ce n'est pas notre mission.
Non, parce que ça me met un peu mal à l'aise quand quelqu'un, il est un petit peu, ils sont pas là, hein, ils sont un petit peu absents, ces gens-là. Comment ils peuvent venir? Comment vous t'approchez? Hein, c'est un petit peu difficile. Vous voyez ce que je suis en train de
dire? De façon générale, ils sont tous là.
Oui.
Fortement médicalisés.
Voilà.
Médicamentés. Oui. Parce que parfois, ils sont moins là à cause du médicament.
Mais voilà.
Sont là, là. Et lorsqu'on parle de préjugés favorables, moi, que personne ne me raconte que son frigidaire lui parle. Son frigidaire lui parle.
Oui.
Lui, il y croit fermement et c'est ce qu'il entend. Si son frigidaire commence à faire des problèmes à ses voisins, là, on intervient.
Tout à fait, exactement.
Je vous donne cet exemple.
Mais c'est très bien parce que vous êtes en train de me dire qu'ils ne sont pas. C'est toujours récupérable. Ces gens-là, si la société s'y trouve de l'aide nécessaire, ils vont sûrement.
Fonctionne comme n'importe qui.
Reportement. Je te remercie beaucoup, madame. Je reviendrai pour vous donner. Vous demander votre opinion si vous avez quelque chose à dire au public. Mais j'aimerais passer directement à monsieur Edgar Robin. Vous avez fait dernièrement une sorte d'enquête sur la mort de monsieur, c'est Arshad, hein?
Farshad.
Oui.
Farshad,
pardon, c'est la mort de monsieur Farshad. Et j'aimerais bien, quel est le suivi que vous avez pu obtenir dernièrement?
Il n'y a pas vraiment des nouvelles depuis qu'on a parlé la dernière fois au niveau de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'on a déjà parlé de ça.
Oui.
Moi, ce que j'ai fait maintenant, c'était d'essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec le funérail. Et aussi, moi, j'ai recommandé à certains gens que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une enquête indépendante, non seulement une enquête indépendante, une autopsie.
On a déjà fait la demande officiellement.
Oui.
On a fait la demande au coroner
parce qu'il y a tellement de questions. Quand on parle de trois balles, comme vous avez dit.
Oui, moi, j'ai
entendu des histoires un peu louches.
Comme quoi, il a reçu une balle dans le dos, la première,
La première, mais c'est ça. Même la première était dans le dos.
Oui,
les deux autres, j'ai entendu des histoires qu'ils étaient à bout portant.
Mais ça veut dire que l'itinérant, une fois reçu, soit, je ne suis pas certain, hein, selon les quelques témoignages, une fois il a reçu la balle au dos, c'est encore pas certain, une fois il était au sol, là il a reçu deux autres balles en plein poitrine.
C'est un des témoignages que j'ai...
Vous avez retenu.
Oui.
Voilà. Donc, je reviens maintenant à monsieur... Roland, mon collègue Roland Casas, pour savoir la question du corps. Hein, on sait que il a jamais été question de Monsieur Arshad, et maintenant une fois il est mort, ça du coup est devenu maintenant une question nationale. Hein.
Ben oui.
Comment vous pouvez voir ça? Comment
c'est
vous pouvez
dire? Un émigré qui n'est pas encore reconnu,
pas
de statut, et il disparaît en définitive.
Oui.
On le tue, il n'a pas de famille, il n'a personne. Il n'y a pas d'avocat pour prendre sa défense, pour attaquer ceux qui l'ont abusé.
Est-ce que vous croyez à la thèse qu'il n'y a pas de famille? Moi, je pense que ici, je sais qu'ici, il y a plusieurs corps, c'est-à-dire il y a une dizaine de corps par année qu'on ne trouve pas de famille. Mais des gens comme ce type-là qui vient d'ailleurs, ce n'est pas la même culture. Hein.
Non.
Vous pensez vraiment pas qu'il n'y a pas de famille, ou bien c'est le gouvernement qui fait semblant de le dire qu'il n'y a pas de famille pour enterrer puis finir avec ce dossier-là?
Ils traînent trop lorsqu'ils reçoivent des émigrés. Moi, je trouve que le système d'émigration n'avance pas assez vite afin de reconnaître les personnes. On reconnaît plus ceux qui ont l'argent dans la poche et qui arrivent et qui ont tué des centaines et des centaines de personnes, qui ont exterminé un peuple. On les reçoit plus facilement. Et après, pour les foutre dehors, on fait toutes des salades et des histoires. Ceux qui n'ont pas de famille, on leur tire une balle dans le dos. Moi, je voudrais voir, d'après Edgar, la topographie de M. Edgar, comment est mort Mohamedi. Ça, ça m'intéresse. J'estime qu'il n'y a pas eu une enquête franche.
Mais Edgar, il a donné une hypothèse selon ce que les témoignages ils ont dit.
Mais donc, M. Mohamedi était en haut de l'escaladeur, si vous préférez, de l'escalier de tourment.
Vers la sortie de Cadillac.
Il était en haut vers la sortie. Les policiers étaient en bas de l'escalier. Donc, il n'agressait pas les policiers. Il se sauvait vers la sortie de secours. Et il tournait le dos aux policiers qui étaient en bas.
Probablement,
il
on n'a pas la certitude.
Dos.
On n'a pas la certitude.
Et c'est ça. Comment ça se fait que la police n'est pas capable d'enquêter sur un système comme ça, qui est un crime? Je m'excuse, c'est un crime. Et on doit considérer ça comme un crime. Vous savez, ceux qui dirigent la police, le maire de Verdun dirige la police. Et qu'est-ce qu'il a décidé dans Verdun? Où il y avait des abris pour les itinérants, des bancs extérieurs du métro. Eh bien, on a enlevé ces bancs-là. Même devant l'église où il y a le Christ, là où c'est qu'ils se rassemblaient, ces gens-là, de temps à autre, sur un banc, ils ont le droit de prendre l'air aussi, ils ont le droit de vivre. Ils ne peuvent pas rester chez la maison du Père toute la journée, ils ne peuvent pas rester...
Non, mais ils n'ont pas le droit, c'est fermé, hein, la maison du Père, c'est fermé, jusqu'au soir, c'est ouvert. Hein.
Et voilà, alors ils ont le droit de se promener, de prendre l'air, comme moi, comme vous, comme tout le monde, ce sont des êtres humains qui ont le droit de rencontrer peut-être des amis, peut-être discuter, peut-être avoir un petit aumône, peut-être aller boire un petit café chaud. Ils ont le droit... On accepte que ces gens-là, mais ils n'ont pas de lieu.
Madame Galipo, peut-être si vous me permettez, vous savez bien que le SPVM, après la mort de M. Mohamedi, ils ont donné feu vert aux itinérants d'aller se réchauffer un petit peu dans les métros. Comment vous voyez ça? C'est une...
Comment c'est le temps? Ben moi, de tout temps, j'ai toujours vu des itinérants dans le métro l'hiver, couchés dans un coin.
Mais certains policiers les chassent, hein, des métros. Là, parce qu'on a vu dans tous les journaux aussi comme quoi les itinérants sont bienvenus dans le métro, assure le SPVM. Hein. C'est quelle sorte d'hypocrisie.
Mais s'il y avait une fusillade, s'il y avait une guerre, s'il y avait une bombe, s'il y avait un terrorisme,
ben, c'est pas le même. C'est pas le même.
D'aller s'abrier dans le métro, c'est une loi de sauvegarde.
Mais ce n'est pas le même cas. On part des itinérants qui sont à l'extérieur.
Ils vont mourir de froid dehors quand il fait très froid. Ils ont le droit de s'abriter. Ce sont des êtres humains.
Voilà. On va juste faire une pause musicale et on va revenir à la suite de nos informations.
Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, je remontais, parce que sans raison, j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'était apparent dedans. Je me sentais seul, comme une rivière, abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il n'y a pas longtemps, j'étais petit, mais voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison, sur un bel air d'accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment, vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Mais oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer que l'autre chanson, je m'étais trompé comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, le pouvoir soulage leurs tourments. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand ce qu'on aime ne veut pas marcher. Je les ai boudés, ils n'ont pas mordu. Je les ai quittés, ils n'ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu quand j'ai compris que je suis venu. Je les ai quittés, ils n'ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier, je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé.
Donc voilà, rebonjour, chère auditrice, cher auditeur. Je reprends mon entrevue avec maintenant avec Monsieur Roland Cazès à propos de Yann, le cas de Yann Davidson.
C'est une histoire qui est bien bizarre. Hein, oui. Ça. En fin de compte, c'est ce policier
qui retentit de vendre à la mafia
qui
italienne.
Qui a tenté de vendre à Mouchy, en définitive, les renseignements, mais
la
à travers
des informations,
un avocat,
ouais.
Mouchy qui est dans la mafia, puis qui a pas cru la cause, mais il lui a montré 4 noms. D'autres policiers ou de certaines personnes qui étaient enquêtées.
Oui. Non, mais la thèse du suicide.
Oui. Alors moi là, je m'excuse. J'ai vu des harakiri se couper, vous savez, les intestins, les estomacs,
ouais,
tout ce qui s'ensuit.
Trancher la gorge.
Trancher la gorge. Oh là là.
C'est possible, hein,
s'il vous plaît. Sortez-moi le policier qui va donner une explication comment qu'on peut avoir la puissance de se couper la gorge avec un couteau pour se suicider.
Ouais, c'est vraiment.
Il a reçu des menaces. Ouais. Il a reçu des menaces.
Mais est-ce que c'est possible qu'il était poussé, Mme Galipo, qu'il était poussé à se suicider, même?
Ah, ça, que les pressions aient été suffisantes pour qu'il pense au suicide.
Mais même ça, quelqu'un peut avoir le courage de se trancher la gorge.
Ben, moi, c'est certain que, comme femme, non, j'aurais pas le courage.
Oui. Et la force.
La force, ça, je suis pas certaine. On a une belle jugulaire, là, juste dans le cou, là.
Juste avant, il y a M. Gnip qui vient, de rejoindre dans le studio. Et peut-être je vais lui poser la question à propos de son réaction de la mort de M. Arshad.
Mais moi, je pense qu'on peut arranger toutes les choses. Aussitôt, si on n'a pas de film, ça, je ne crois pas à toute cette version, ça se magouille.
Ça, vous êtes en train de parler de il faut avoir, normalement, le public a le droit de voir, visionner la vidéo de la scène, c'est ça? S'il y a une vidéo, je sais qu'il y a une partie des vidéos, oui, mais pas toute la totalité.
On sait aujourd'hui qu'on est filmé, on est espionné partout, mais quand il y a des cas spéciaux comme ça, où il y a la police impliquée, où il y a la mafia, le meilleur ami des policiers, ce sont des criminels, c'est vraiment quelque chose de terrible qu'aujourd'hui les masses médias sont manipulés, les masses médias sont complices. Moi j'ai fait une grève de faim dernièrement avant les fêtes, et masses médias devant RDI, devant le palais de justice.
Mais parce que vous êtes vulnérable pour eux, une personne,
parce que je suis seul, s'il y a 2-3 000 avec les transparents, là masses médias ils sont là, mais quand vous êtes seul, il faut être très fort pour être seul et faire grève de faim dans
Mais vous parlez de la mort de Arshad.
Mais ce monsieur-là, moi, je n'ai pas connu les détails, mais je sais qui le plus dangereux mafia, c'est la mafia policier, ok? Oui. C'est la mafia policier qui influence la justice.
Quand ils veulent camoufler.
Pourquoi la fraternité policier empêche des policiers d'entrer ici ou là? Pourquoi la fraternité policier et les procureurs, ils devront, comme les juges, ils devront totalement être justes et indépendants, oui, pas protéger les policiers qui sont déjà protégés. Ils ont des armes, ils ont de l'argent, tout. Mais simple citoyen comme ça, moi, oui, ok, oui, je n'ai pas aucune support. Même l'aide justice est refusée à moi, ok.
Oui, mais vous êtes un citoyen, imaginez-vous, les gens vulnérables comme M. Arshad Mohammadi, qui était un itinérant, oui, qui n'avait pas de sans-abri, et qui n'avait presque pas de statut, il n'y a pas de visage.
C'est
plus,
un citoyen comme Premier ministre Charest ou Harper, ok. C'est un citoyen comme les autres, il devrait être protégé. S'il est mort, on devrait avoir une investigation. Comme par exemple, mon compatriote à Vancouver qui était tué par GRC. Oui. Ok, c'est scandaleux que ce monde-là soit en liberté. Oui. Ce sont des sadiques. Oui. La police devrait être nettoyé de toute malade mentale policière, ouais, sadique.
Exactement. Donc, juste pour revenir sur le fait comme quoi ce n'est pas tous les policiers qui sont dans le même cas. Heureusement, parce qu'on a des policiers qui sont
des
très bonnes familles, qui font leur travail comme il faut. Ces gens-là, on respecte et on tire le chapeau. Maintenant, je reviens aussi, on revient à l'histoire de David Sanlissou.
C'est ça. Vous voyez, alors voilà un policier qui en définitive trahissait sa formation, ses collègues et tout ce qui s'ensuit, qui a reçu des menaces de ses collègues, qui ont dit « toi là, tu vas dégager ».
Oui. Oui.
Et là, on le trouve mort.
Mais vous savez très bien que, soi-disant, la police savait déjà que, depuis quelques mois, l'histoire. Mais pourquoi ils n'ont pas arrêté?
Pourquoi n'ont-ils pas arrêté, mis en observation, comme on fait dans d'autres pays? On doute de vous. On peut se tromper. On vous libérera, on s'excusera. L'erreur est humaine, mais pas l'erreur de cette façon. Pas l'erreur qui dépend d'une vie humaine. Pas le passeur. Le père de famille d'un enfant. Il est marié, il a une femme. Alors, non, on n'a pas le droit de faire souffrir toute sa famille à cause de maladresse policière.
Oui. À propos de M. Edgar, qu'est-ce que vous disiez à propos de cette mort, le suicide de M. Davidson, soi-disant la thèse de suicide de M. Davidson?
Je ne peux pas vraiment parler de ça parce que je ne suis pas trop au courant de ça. Je suis concentré sur le cas de M. Farshad. Oui. J'ai lu quelques histoires, mais.
Maintenant,
peut-être dans une semaine ou deux, je peux dire quelque chose.
Oui. Mais pour M. Farshad, d'ailleurs, si vous parlez de M. Farshad, est-ce que la DIPU, est-ce qu'ils ont trouvé quelqu'un pour.
Oui, effectivement. J'ai parlé avec. Où j'ai laissé des messages avec Québec solidaire parce que...
Québec solidaire?
Oui, parce qu'au début, il y avait comme un conflit vraiment entre Québec solidaire et une mosquée iranienne qui a voulu les deux faire les funérailles. La mosquée iranienne voulait, ou le centre islamique iranien voulait un funérail islamique.
Religieux,
exact. Oui. Puis, M. Amir Kadir voulait un séculaire, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de savoir où et quand ça va se passer. J'ai pensé que ce serait bon pour même Mouvement Action Justice de dire quelques mots durant le funérail.
Ouais.
Puis finalement, j'ai trouvé que c'est un groupe qui s'occupe des itinérants, c'est Diogène, il y a un autre mot, mais de toute façon, c'est sous le toit de Diogène. Eux autres s'occupent de l'organisation de funérailles. J'ai passé au bureau hier, si je ne me trompe pas, puis ils ont dit que rien n'est concret. Ça veut dire que je pense que ça va être quelques autres jours avant que ça concrétise, mais on reste au courant de ça. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça.
Ouais. Maintenant, pour vous, Madame et toujours Calipo, aujourd'hui, vous êtes là. J'imagine que vous œuvrez depuis très longtemps dans dans l'organisme et tout. Avez-vous quelque chose à dire aujourd'hui aux citoyens?
Oui, un message de respect, de tolérance. Peu importe que la personne puisse vous paraître bizarre, étrange, dérangeant parfois, c'est possible. Un, ça ne veut pas dire qu'elle a un problème de santé mentale. Deux, faire attention de ne pas automatiquement associer ça à la santé mentale, associer ça à un problème d'itinérance ou peut-être une manière spéciale de me vêtir. Ce que j'essaie de dire, c'est un message de respect.
Oui.
Et c'est des citoyens, citoyennes, comme nous tous, Et mais faut mettre, au même respect.
Mais il faut toujours mettre en parenthèse comment ça, ils sont sensibles, ils sont fragiles, ces gens-là.
Mais d'autant plus qu'il faut les respecter, oui. De demander de la tolérance et du respect, d'autant plus parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils sont vulnérables.
Donc vous disiez à tout le monde, à l'extérieur, que si vous rencontrez des gens comme ça, il faut faire attention, il faut aller doucement vers ces gens-là.
Pas nécessairement. Écoutez, il y a eu une campagne à un moment donné par rapport à l'itinérance que j'aimais bien. Regardez-moi dans les yeux. Voilà. Juste ça, regardez-moi, je suis pas invisible.
J'existe, voilà.
J'existe. Juste ça, là, c'est pas de dire, quand on parle de respect, c'est une façon d'aborder les gens, c'est une façon de les regarder, c'est une façon de. Et on n'est pas obligé d'aborder le monde si on veut pas les aborder, là. Oui. Mais, pas comme, ça te dérange, va-t'en, dépousse-toi, décolle, en tout cas, peu importe, là.
Savez-vous qu'il y a eu des tests qui ont été faits, hein? On a pris des personnes bien habillées qui tombaient dans notre trottoir. On a fait des tests. Tout le monde a couru pour les aider. Et on a pris un pauvre diable mal habillé, qui était un peu itinérant, et qui est tombé. Et là, tout le monde se poussait. Oh, il est drogué, il est saoul, il est malade mental, il est ci, il est ça. Alors, on a des préjugés. Ouais. Et on doit chasser ces préjugés. C'est un être humain.
Ouais. L'hypocrisie.
Ce n'est pas un animal, c'est un être humain. C'est de l'hypocrisie que de faire ce...
Monsieur Knipp est toujours révolté sur ces situations.
Je suis révolutionnaire un peu. J'ai vu le système communiste. Je vois ici que le système fasciste et communiste entrait. Okay? Alors, on tire très vite pour des gens qui sont différents. Okay? On dit qu'il est agressif, il est agité. Alors, regardez un peu l'Assemblée nationale.
Vous êtes en train de dire peut-être que ce n'est pas le cas du tout, c'est ça?
Oui, c'est ça. Regardez l'Assemblée nationale à Québec ou Ottawa. Ils sont tous agités. Oui. Pourquoi personne n'est pas tiré sur eux? Okay? Oui. Mais sur les rues, les policiers ont toujours un prétexte pour se faire. On a une sergent ville à Verdun qui fait la quantité industrielle des arrestations. Il veut être champion. Alors, des personnes innocentes, parce que quelqu'un dit quelque chose, on va menotter. Non, ça ne marche pas comme ça.
Ça veut dire qu'un policier, s'il interpelle quelqu'un, si la personne, l'individu, juste lève la voix, pour lui, il est agressif, c'est ça?
Agressif, c'est les policiers qui sont agités, agressifs. Et ils ne sont pas normaux. Oui. Majorité. Oui. Il y a certains qui sont très bons. Oui. Mais comme Sergent vient, il ne devrait pas être à Verdun. Il est protégé par M. Trudel, et par déontologie policière, par droit des personnes, par fraternité.
Par la fraternité policière qui, pour...
La
fraternité policière. Vous savez bien, la devise de la fraternité policière, c'est aider un policier, ou appuyer un policier à tort ou à raison. Je passerai, Madame Galipo, vous l'avez dit.
Je voulais simplement donner un exemple qui s'était passé en face de nos bureaux, une personne itinérante qui se fait entourer par 4 policiers. La personne à des botches de cigarettes sur le trottoir. Elle n'avait pas d'affaires, là, les botches.
Il était vraiment encerclé, il était devenu dangereux pour eux.
Les policiers n'étaient pas nécessairement agressifs, sauf que le fait... d'être entouré de 4 policiers, lui, il a commencé à s'énerver.
Ils se sont mal à l'aise.
Et là, comme il a commencé à s'énerver, c'est certain que l'attitude des policiers ont changé. Au départ, tout le monde était calme.
Juste
la façon d'intervenir, la façon d'interpeller la personne. Ouais. C'est ce qui fait que la personne commence, là, oups, ça va mal, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, il commence à paniquer.
Mais c'est quand même grave, quand vous parlez, Mme Galipo, vous l'avez déjà mentionné, comme quoi, dans la formation du policier, si on part de 7 heures de formation à propos justement de ces individus-là, c'est quand même, elle semble loin de réussir une approche comme ça vers un itinérant.
Surtout quand on travaille dans le centre-ville à Montréal. Parce qu'on sait qu'ils sont fortement concentrés dans le centre-ville à Montréal. Oui. Il devrait y avoir de la formation permanente. Là, on parle de mettre... Bon, il y a Emery, déjà une brigade qui est sur pied. On parle d'en mettre un autre.
Oui, mais est-ce qu'ils vont être partout, cette brigade-là? C'est encore loin de répondre. Edgar, vous avez voulu dire quelque chose, oui?
Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'expérience concernant l'agressivité. Oui. Moi, je fais un proteste devant l'Église unitarienne de Montréal depuis des années. Ça a commencé dans l'été de 1998.
Oui. Mais parle-nous de l'intervention.
Oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs interventions policières.
Ouais. Et pourtant, vous n'êtes pas du tout agressif.
Non, je marche avec des pancartes. Ouais. Je suis presque...
Aucun signe d'agressivité
très,
de votre
très peu.
Part.
Des fois, si je suis moi-même, je suis agressé par quelqu'un, je vais peut-être dire quelques mots.
Laissez-moi tranquille.
C'est ça. L'Église, ils appellent à la police et à chaque contacte la police, il dit que moi, je suis agressif. Ouais. Alors, la police vient, il voit que je fais rien. Et ils sont venus littéralement des plusieurs dizaines de fois. Ça doit mesurer dans les centaines de fois maintenant que la police vient. Je fais un protest parfaitement légal devant une église et la police vient.
Juste mentionner, vous êtes bien de mentionner comme quoi, même si vous protestez pacifiquement et tout, l'approche de la police est complètement différente. Quand eux, ils décident que vous êtes agressif, c'est ça?
Well, actuellement, non, parce que, ouais, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas décidé que je suis agressif.
Non, mais dans la, je parle de manière générale.
C'est l'arrogance.
Ouais. C'est l'arrogance, c'est ça.
C'est l'arrogance policière qui nuit beaucoup au contact. Parce qu'il y a un respect à avoir envers la police, comme la police doit avoir un respect envers le citoyen.
Sur ce niveau-là, honnêtement, je peux dire que la grande majorité des policiers qui sont venus à l'église étaient très polis et professionnels. Il y avait juste une minorité de ce que j'appelle des cowboys. Mais, mais honnêtement, mais c'est ridicule qu'ils viennent. Même une fois, si je fais quelque chose de parfaitement légal et paisible, il n'y a aucune raison de venir.
Il y a une chose qui est grave. C'est le syndicat aussi des policiers. Oui. Le syndicat est là pour défendre la convention collective des policiers et le code du travail. Il ne faut pas oublier ça. Ce ne sont pas des avocats juridiques, criminels, civils. Et ça, il faut absolument que les juges commencent à mettre ça sur la table et mettre des injonctions contre le syndicat des policiers.
On va directement passer directement à dire le dernier mot. Ce que nous avons à pense, dire, oui, le dernier mot pour.
Alors moi, je pense surtout la police, il devrait dire la vérité. Il devrait chercher la vérité. Ce que je vois, la police fabrique des mensonges et base ses rapports sur les mensonges. Ça, c'est scandaleux. Une fois qu'on s'est prouvé, le policier doit être out of the service.
Oui, mais M. Gnip, si vous pensez que les policiers vont un jour être vrais, être transparents, ben
ils sont bien payés pour ça.
Vous rêvez en couleur.
On les paye très bien. Okay.
Dernièrement, M. Edgar, avez-vous un mot à dire aujourd'hui à propos de la situation de Farshad?
Ouais, je continue à voir qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est une bonne idée si le mouvement Action Justice peut participer dans les funérailles. Et j'essaie de travailler sur ça.
Excellent. Madame Galibou, vous avez déjà dit votre mot, dernier mot. Vous conseillez les citoyens d'être plus sensibles, d'être plus respectueux envers les gens vulnérables comme les itinérants, les sans-abri, c'est ça?
Oui, vivement une enquête indépendante sur la police.
Voilà. Ouais. Et surtout, à propos de le projet de loi 46.
Après ma barre, la lecture que nous en avons fait, c'est une mascarade.
C'est scandaleux. Dernier mot pour vous, monsieur.
Moi, j'estime que définitivement, on doit agir et très rapidement et faire le nécessaire auprès des policiers. C'est parce qu'ils sont mal encadrés, ces policiers-là.
Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Chères auditrices, chers auditeurs, je profite de ces quelques secondes qui restent pour remercier Mme Joanne Galipeau d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à mes collègues Roland Cazès, Robert Edgar et aussi à M. Gnip, Rosemond Legault pour leur soutien finalement, à Clara aussi, cette future juriste. On dit merci pour l'intérêt qu'elle porte à cette émission. À Radio Centre-Ville 102.3 FM, un grand remerciement de nous avoir cédé cette tribune afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été à l'écoute. À moi, je vous donne un rendez-vous à la semaine prochaine à même heure et je vous dis à bientôt.
François Chartier et le chef Stéphane Moda. Cette semaine, les saveurs du Vietnam avec Kim Thuy.
En nouveauté, Papille, ce soir, 20h.
À Télé-Québec, l'autre télé.
Ah, je fais partie des 72% de Québécois qui n'ont jamais calculé l'épargne nécessaire pour leur retraite.
La réalité va être un choc.
Ah oui, épargner, pas facile quand on a déjà de la misère à arriver.
Pour y arriver, une adresse. Je planifie.gouv.qc.ca et faites le calcul avec un outil tout simple. simule R.
Je planifie. Mais si j'ai des questions parce que je vis un choc...
Ben, venez en jaser avec moi, Francis Picotte, sur mon blog.
Oh, un actuaire blogueur, il a l'air sympathique.
Merci. Je vous attends sur jeplanifie.gouv.qc.ca.
Un message de la Régie des rentes du Québec.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse.
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Non-stop sur les Antilles, une émission de variété, un plaisir à la découverte, une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30, sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Radio Centre-Ville vous donne des outils pour participer à la vie montréalaise. Émissions sur l'emploi, implication bénévole, droits des travailleurs, services communautaires, les solutions sont à votre portée sur le 102,3 FM. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.